France Info.
France Info.
L'une des infos de la matinée qui est publiée dans le magazine Le Point, c'est l'interview du nouveau ministre de l'économie, Emmanuel Macron. Interview dans laquelle il dit souhaiter assouplir les 35 heures. Bonjour Simon Le Baron.
Bonjour.
Il n'y a pas que ça dans les journaux ce matin. Les journaux parlent beaucoup du nouveau locataire de Bercy. Surprise de ce nouveau gouvernement Valls. On apprend notamment qu'il sort d'une promotion exceptionnelle à l'ENA.
Oui, une cuvée d'exception. C'est comme cela que Le Monde qualifiait l'année dernière la promo Léopold de Sédar Senghor, sorti de l'institution en 2004. Les ex-camarades à l'ENA du nouveau ministre de l'économie trustent les plus beaux postes dans les cabinets ministériels et les grandes entreprises, précise encore le magazine Challenge sur son site internet. 10 ans après leur sortie de l'école, plusieurs membres de cette promo bénis, selon l'expression de l'hebdomadaire économique. Plusieurs de ces membres occupent des fonctions prestigieuses dans de grands groupes privés, Kering, AXA ou encore la banque Rothschild, banque par laquelle, tiens, est passé Emmanuel Macron de 2008 à 2012. Une quinzaine d'autres de ces membres occupent des postes clés de la République. Avant le remaniement, 4 d'entre eux, par exemple, étaient directeurs de cabinet ministériel. Boris Vallot, notamment, occupait cette fonction stratégique chez Arnaud Montebourg, qui vient de laisser sa place justement à Emmanuel Macron. Boris Vallot, mari de Najat Vallaud-Belkacem, nouvelle ministre de l'Éducation nationale. Autant d'énarques d'une même promotion au service d'un gouvernement, un phénomène peu commun, voilà ce qu'écrivait Le Monde en 2013. Une réussite qui rappelle celle d'une autre promo exceptionnelle, la fameuse promotion Voltaire sortie en 1980 et dont faisaient partie entre autres François Hollande, Ségolène Royal, Michel Sapin et Dominique de Villepin. Des promos comme ça, on n'en voit pas tous les ans. Depuis les Voltaire, jamais une promo n'a autant fait parler d'elle, assure Challenge. Et parmi ces brillants trentenaires, il y en a un qui était déjà présenté l'an dernier par Le Monde comme la tête de gondole, le plus séduisant, le plus médiatique, écrivait le journal. Un jeune homme de 36 ans, Emmanuel Macron.
Dans la presse également, le trésor de Monaco.
Oui, plus d'un million de photos découvertes dans les caves du palais de la Principauté. Quelques-uns de ces clichés inédits sont présentés en exclusivité par le magazine Polka qui sort aujourd'hui. Une collection inestimable qui dormait paisiblement dans des centaines de cartons sur des étagères à perte de vue. 150 ans de photographies dans leur jus, négatifs, diapositifs, plaques, des centaines d'albums, des sacs et des sacs de films. On apprend que la photo est donc une passion familiale chez les Grimaldi. Et Polka raconte, étagère numéro 7, boîte numéro 4, on trouve un cliché d'Albert Ier pris en 1913. Albert Ier qui pique-nique dans une forêt américaine avec Buffalo Bill. Et oui, c'est à voir dans le magazine. On découvre encore de superbes photos prises par Grace Kelly elle-même. Bref, une caverne d'Ali Baba, nous dit le trimestriel. Il faudra au moins 10 ans pour tout explorer, mais on peut déjà avoir un avant-goût de ce trésor donc dans le magazine Polka.
Si on vous demande quelle est la boisson nationale en Pologne, j'imagine que vous me répondrez à coup sûr
la vodka,
évidemment. Eh bien non, puisque ça a changé il y a maintenant quelques semaines, c'est le cidre.
Et oui, l'histoire est à lire sur lemonde.fr. Elle est liée en fait à la crise ukrainienne. En réaction aux sanctions internationales qui ont été votées récemment à l'encontre de Moscou, la Russie a décrété un embargo total sur les produits alimentaires européens et américains. En Pologne, le produit phare, c'est la pomme. La Pologne, c'est le premier pays producteur de pommes en Europe. Et comme Moscou est le plus gros acheteur de pommes polonaises, c'est cette filière qui subit le plus fortement les conséquences des sanctions russes. Boire du cidre est donc devenu un signe de protestation. Un mouvement s'est mis en place sur les réseaux sociaux. La consommation de cidre explose depuis 3 semaines. Pourtant, nous explique Le Monde, les Polonais n'ont jamais tellement aimé le cidre qu'ils produisent.
Ah,
il est un peu trop sucré. Ils préfèrent en fait le cidre français, par exemple. La boisson emblématique du pays, c'est plutôt la vodka. Mais depuis 3 semaines, ils boivent donc du cidre. Comme le titre Le Monde, boire du cidre est devenu en Pologne un devoir patriotique.
France Info 9h22, on passe notre coup de fil à la presse régionale.
Avec nos confrères de la Provence, comme tous les jeudis dans l'Hyper Revue de Presse, Philippe Schmitt, rédacteur en chef adjoint du journal, est avec nous. Bonjour Philippe.
Bonjour Simon.
Alors ce matin, vous revenez sur un fait divers terrible.
Oui, qui s'est produit hier à 4h du matin près d'Aix-en-Provence. Alors c'est un garçon de 15 ans, qui s'était échappé d'un foyer de Martigues et qui a dérobé une voiture en pleine nuit avec un de ses collègues de 16 ans. Il a causé un accident dans lequel un pâtissier de 23 ans qui partait au travail, lui, a trouvé la mort. Alors ce drame, vous l'imaginez, a provoqué une émotion considérable dans la région d'Aix-en-Provence et dans le village du pâtissier à Gréasque. Et nous posons la question de l'efficacité du suivi éducatif de ces jeunes gens qui sont placés en foyer par la justice. justice, car cet ado était donc en fugue avec un de ses copains de 16 ans depuis plusieurs jours, depuis vendredi. D'ailleurs, tous deux sont sérieusement blessés aux jambes. Notre journaliste Romain Capdepont interroge: comment redonner des règles à ces enfants, leur inculquer des valeurs de base, et est-ce que les éducateurs, surtout, ont les moyens d'assurer un encadrement lourd et de tous les instants, parce que finalement, c'était des gosses qui étaient connus pour des petits délits, mais qui n'avaient jamais commis d'actes très graves. Surtout dans la région, ce n'est pas la première fois qu'on assiste à de tels drames, malheureusement, causés par des garçons, par des enfants qui sont échappés d'un foyer. Alors aujourd'hui, il y a une famille qui est détruite par l'inconscience et l'irresponsabilité, et il va bien falloir expliquer aux parents les raisons de leur malheur.
Tout autre sujet maintenant, Philippe. Netflix va arriver en France le 15 septembre. Netflix, c'est le géant de la télévision par Internet qui va diffuser l'année prochaine sa première production française. Vous en parlez dans La Provence et pour cause, puisque cette série va s'appeler Marseille.
Oui, c'est un scoop de notre journaliste Laurent Dancona. Marseille va être une des têtes d'affiche de Netflix pour attirer le chaland. Mais évidemment, le Marseille qui va être montré, vous vous en doutez, c'est le Marseille sulfureux. Alors là, dans cette série qui est fait de ripoux à tous les étages. Alors, le tournage de ce thriller politique va donc commencer dans les prochains mois. Il racontera l'histoire d'un vieux maire attaqué par son dauphin, où les arbitres seront, je cite le producteur, les barons de la drogue, les politiciens et les syndicats. Alors ce même producteur précise bien que cette série n'est pas tirée de faits réels, mais il n'empêche, c'est encore un Marseille très noir qui va éclabousser les écrans. Alors c'est l'écrivain Dan Franck qui est en train de rédiger le scénario, avec Florence Siri et Samuel Benchetrit à la réalisation. Donc vous le comprenez, c'est du lourd, et cela positionne, alors beaucoup s'en réjouiront, un peu plus Marseille sur la planète cinéma, d'autant que cette série sera exportée. Il y a quand même eu 345 tournages en 2013, donc ça marche très fort. Mais après, est-ce que les Marseillais vont apprécier une nouvelle fois que leur ville soit aussi salement dépeinte, même pour la gloire télévisuelle? Eh bien écoutez, rien n'est moins sûr évidemment, et aujourd'hui on va poser la question aux politiques.
Les 8 épisodes de la série Marseille seront en tout cas à voir à partir de l'année prochaine sur Netflix, le leader de la vidéo sur Internet. On pourra se faire notre propre avis sur l'image que cette série donne de votre ville. Philippe Schmitt, rédacteur en chef adjoint du journal La Provence, merci beaucoup Philippe d'avoir été avec nous dans l'Hyper Revue de Presse. Demain, on sera avec nos confrères d'Ouest France.
Merci beaucoup Simon Le Baron, et toujours à propos de la presse, sachez que nous serons en direct avec Étienne Gernel, le directeur de la rédaction du Point, dans une vingtaine de minutes. C'est lui qui a fait l'interview du nouveau ministre de l'économie, Emmanuel Macron. Interview dont on parle tant ce matin, puisque dans cet entretien, le nouveau ministre de l'économie déclare qu'il est prêt à assouplir les 35 heures. On demandera à Étienne Gernel dans quelles circonstances cet entretien s'est réalisé.